Ministro Rosi, esta manhã na BFM TV, diz que vai relançar o recolher obrigatório implementado em 2009.
Nous sommes en train de renouveler l'arrêté de 2009 pour qu'il puisse poursuivre le rôle qu'il a joué de 2009 à 2020 et qu'il puisse aujourd'hui, où nous sommes
pour les moins de 13 ans aussi,
à cette violence, bien sûr, pour les moins de 13 ans.
C'est la catégorie d'âge que vous visez.
Mais c'est une catégorie d'âge que je vise, mais je suis en train de regarder, même si sur les moins de 14 ou 15 ans, nous ne pouvons pas le mettre en œuvre, parce que, ou en tout cas dans certains quartiers. Ouais. Ce sera pour toute la ville,
toute la ville de Nice.
13 ans, et on va identifier
dans les prochaines semaines,
quartiers.
Avant l'été.
Lorsque je vois, par exemple, ce qui se passe sur le trafic de drogue dans des points de deal qui sont bien identifiés dans un quartier qui est celui des Moulins, par exemple, nous allons voir si nous ne pouvons pas monter jusqu'à 14, 15, voire 16 ans.
O presidente da Câmara de Nice esta manhã na BFM TV. E em Portugal, Sebastião Bugalho, o cabeça de lista da AD às eleições europeias, a lista da coligação Aliança Democrática ao Parlamento Europeu foi votada na segunda-feira numa reunião do Conselho Nacional do PST. O presidente do PST, Luís Montenegro, justificou a escolha.
Sebastião Bugalho é, com toda a honra, com muita convicção, o candidato que eu tenho para vos apresentar e que estou convencido vai também fazer a diferença nas próximas eleições europeias. Um jovem talentoso que o país conhece, aqui e ali até polémico, que afronta a posição, que é disruptivo, que estimula a confrontação democrática com respeito democrático.
O presidente do PST, Luís Montenegro, sobre a escolha do cabeça de lista da AD, Sebastião Bugalho. Da lista faz parte também o número 2, Paulo Cunha, e em terceiro está a centrista Ana Miguel Pedro Soares. O PS também já tem a lista. Marta Temida, ex-ministra da Saúde, vai encabeçar essa lista para as mesmas eleições. A Comissão Política do PS reuniu-se, aliás, ontem à noite para aprovar uma lista de candidatos. O secretário-geral do Partido Socialista, Pedro Nuno Santos, explicou também a escolha.
Teve um papel muito importante como Ministro da Saúde, num momento difícil da vida dos portugueses, e que mostrou estar à altura desse momento, tendo ganho a confiança e criado uma relação de muita proximidade com o povo português. Quisemos também valorizar a nossa lista com a sua presença e com a sua liderança.
A antiga Ministra da Saúde, aliás, Marta Temido, é a escolha de Pedro Nuno Santos, e a lista conta ainda com Francisco Assis como número 2 e Ana Catarina Mendes no terceiro lugar. Outro nome, outra lista, a CDU entregou também no Tribunal Constitucional ontem a lista de candidatos. João Oliveira foi escolhido para a cabeça de lista da coligação entre o PCP e os Verdes.
A CDU está efetivamente ao alcance do resultado que precisamos construir com essa campanha eleitoral que vamos fazer, que certamente será marcada por aquilo que caracteriza as campanhas eleitorais da CDU. Dispensaremos o folclore e o mediatismo e as guerras de Alecrim e Manjerona. Faremos da campanha eleitoral efetivamente uma campanha de esclarecimento, de informação e de mobilização para o voto, com a importância que este voto no Parlamento Europeu tem para a nossa vida todos os dias e para que se encontre efetivamente uma base de resposta aos problemas nacionais, assente naquilo que faz falta ao país e não na submissão às imposições que vindo da União Europeia ou do Euro apontam em sentido contrário.
João Oliveira, o cabeça de lista da coligação PCP e os Verdes às eleições europeias de junho. Na outra atualidade, o Comissário para os Direitos Humanos do Conselho da Europa apelou ao governo britânico para que anule o plano de deportação de imigrantes para o Ruanda, depois do Parlamento ter votado a medida. O primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, afirmou que nada vai impedir o objetivo de enviar para o Ruanda os imigrantes que atravessaram ilegalmente o Canal da Mancha entre a França e a Grã-Bretanha, depois do Parlamento ter aprovado a legislação que dá assim luz verde ao plano. Et voilà, c'est la fin de ce journal. La suite avec Didier. Bon après-midi, à demain.
Une excellente après-midi et à demain, Olivia.
Alpha, Radio Cloche Liga, o tempo todo. La météo avec Caixa Geral de Depositos, la banque qui vous suit dans vos projets immobiliers. Plus d'infos et liste des agences sur cgd.fr.
Il est midi 4, merci beaucoup d'être branché à Radio Alpha. Dans un instant, nous allons continuer notre discussion avec l'historien Yves Léonard. Mais avant cela, on va parler de météo. Il fait 12 degrés actuellement à Paris, 11 à Lille, 11 à Strasbourg, 12 à Lyon et 12 à Nice. Et au Portugal, selon l'Institut portugais de la mer et de l'atmosphère, il fait actuellement 22 degrés à Viana, 21 à Porto, 24 à Braga, 19 à Bragance, 21 degrés actuellement à Castelo Branco, 23 à Leiria, 24 à Lisbonne et 25 dans le sud, à Faro. Et nous reprenons maintenant notre entretien avec l'historien Yves Léonard qui vient entre autres nous parler de la publication de la biographie de Salazar, Salazar le dictateur énigmatique aux éditions Perrin. Salazar qui arrive au pouvoir à l'âge de 39 ans mais qui avant cela a eu une vie.
Oui, il a eu une vie, c'est-à-dire que c'est un homme qui, faut toujours se défier de ça. On a là un sentiment que d'abord il est programmé pour devenir dictateur, ce qui n'est pas le cas, et qu'ensuite sa vie, elle est finalement, elle se résume, même si elle est longue, à sa vie publique, sa vie politique. Il a eu une vie très complexe, enfin avec cette dimension évidemment de formation personnelle à laquelle il attachait beaucoup d'importance, parce que c'était la clé finalement de son ascension sociale, il l'avait bien compris. Et donc ses études, cette formation, ses capacités universitaires qu'il a démontré très très rapidement. Et puis en parallèle, il a aussi une vie privée. Alors une vie privée qui est souvent... il a fait tout ensuite évidemment pour qu'elle soit totalement masquée et invisible, comme beaucoup de choses de son parcours. Pour autant, elle a existé, cette vie privée. Alors c'est un homme très particulier qui a un rôle un peu... Alors il est toujours en retrait, comme dans sa vie publique, on va dire, avec cette volonté de séduire, hein, de séduire dans le tête-à-tête, dans le contact, avec beaucoup de femmes qui vont graviter autour de lui. Et ce que l'on sait, ce qu'on arrive à voir dans les différents témoignages et ce qu'on peut recueillir, c'est que... À de rares exceptions près, il est dans un registre assez chaste et distancié, on va dire. C'est-à-dire que c'est du donjuanisme de salon. C'est-à-dire que c'est un homme qui aime séduire, qui aime attirer le regard des femmes, des jolies femmes et notamment. Et pour autant, il ne se livre pas. Il ne cherche pas à construire, dans la plupart des cas, une histoire avec ces personnes-là. Mais pour autant, il ne faut pas non plus le laisser de côté, parce qu'il y a plusieurs femmes qui ont un peu, à certaines périodes, accompagné son parcours, qui l'ont souvent aidé aussi dans le quotidien à écouter un petit peu ce qui se livrait peu, mais des confidences et un rapport du quotidien. Donc, évidemment, on humanise un peu le personnage, le froid dictateur, mais pour autant, on ne peut occulter cette dimension. Et cette dimension qui prendra, évidemment, de nouveaux ressorts. Il y aura une affaire en 1900, juste après la Seconde Guerre mondiale. Il y aura aussi l'affaire avec la journaliste française Christine Garnier. On en voit plusieurs comme ça qui gravitent. Alors c'est un homme qui est marié avec la nation, comme on dit, et le cardinal Serejeira, il veille scrupuleusement, il le dira souvent, je ne peux pas me partager, mon travail c'est de construire le bien de la nation, comme sur la formule consacrée. Pour autant, il s'accorde des moments de particuliers, privés, avec certaines personnes élues de son cœur, ça serait excessif parce que c'est pas un sentimental, c'est un homme assez froid et cynique, mais pour autant, par moments, On voit la carapace qui se fissure, qui se craquelle. Également aussi, ce qui est intéressant de rappeler, c'est le rôle un peu de père de famille qu'il a joué avec ses pupilles, sa pupille surtout chérie Mikes, qu'il a accueilli dans les années 30, en 1936, et qu'il va épauler jusqu'en 1957, son départ de San Bento, elle se marie et tout. Et ensuite, il continuera de jouer un peu le grand-père avec les enfants de cette femme. Et on voit un autre personnage, évidemment, c'est-à-dire quelqu'un qui s'occupe de l'éducation d'une petite fille qu'il a fait réviser, en quelque sorte, qui prend du temps pour l'apprendre les règles élémentaires de l'arithmétique, de la comptabilité, de la lecture, de l'histoire, avec des séquences où il se promène, etc. Donc ça donne évidemment une autre tonalité, un autre visage. Elle dira elle-même plus tard qu'elle le considérait comme son véritable père, alors qu'il n'était même pas, il n'avait pas pris le statut de père adoptif. Mais c'est une séquence intéressante. Et puis enfin, l'autre volet aussi, c'est des cercles amicaux qui sont peu nombreux, choisis, évidemment avec une loyauté absolue, une discrétion totale. Mais on voit graviter, alors le premier cercle, c'est-à-dire les amis d'enfance, de l'université, de la jeunesse, Serrejeira, Bisaya Barreto et d'autres, Mario de Figueiredo, enfin il y en a plusieurs. qui parcourent tout le spectre. On les voit jusqu'au bout pour la plupart. Et puis, il y a ceux aussi qu'il va apprendre à côtoyer, parce que c'est un homme, un volcan d'ambition, c'est un homme très ambitieux qui veut progresser socialement. Et évidemment, il va trouver sur son chemin, il va se rapprocher des milieux d'affaires. Donc, on voit graviter les grands responsables, les grands groupes, les grands conglomérats portugais qui sont là, souvent, à discuter avec lui, à le rencontrer les week-ends. Et un homme comme Espírito Santo va être un peu le banquier favori, l'homme de proximité, jusqu'à son décès brutal au milieu des années 1950. On voit donc toutes ces personnalités qui construisent évidemment une image qui est autre que celle que la propagande s'emploie à diffuser, c'est-à-dire de l'homme tout entier dévoué à sa tâche, qui est dans son petit bureau, son cabinet monacal, où il est le moine dictateur qui passe son temps. Il travaille beaucoup, c'est vrai, quand on regarde son diario, c'est son état des lieux, son agenda quotidien, on voit bien qu'il travaille beaucoup, qu'il a beaucoup de réunions de travail, mais il y a ces moments de pas de côté qui sont nombreux, et puis surtout, cette manière qu'il a de se ressourcer à Vimieiro, à Santa Combadão, son lieu natal, qu'il va toujours fréquenter tout au long de sa vie, qui lui rappelle à la fin l'enfance, et puis le vrai Portugal, comme il le dit, qu'on ne trouve pas à Lisbonne, parce qu'il se sent déraciné à Lisbonne, et puis le fort d'Estoril, à la sortie de Lisbonne, où il va passer de plus en plus de moments de villégiature en été, en payant scrupuleusement sur, il paye de lui-même, de sa poche, la location en quelque sorte du fort, mais c'est un homme qui aime bien se ressourcer, et là il rencontre un certain nombre de personnalités qu'il converse dans le privé avec, en essayant de que ça soit le plus discret, le moins connu possible, mais c'est une vraie réalité qui occupe une part importante de son existence et qui, sans avoir de répercussions sur la vie publique, n'est pas non plus complètement déconnecté de cette vie publique.
Salazar était-il donc un homme corrompu ?
Alors, lui, à titre personnel, il ne s'est pas enrichi à titre personnel, c'est-à-dire qu'on n'a pas trouvé, je n'ai pas trouvé, mais comme d'autres, de traces comptables de, on va pas dire de placement offshore, comme on dirait aujourd'hui,
de détournement,
ou d'évasion fiscale, et je ne sais quoi. En revanche, c'est un homme qui a entretenu, qui a laissé faire assez largement un système de corruption, de favoritisme, de clientélisme, mais de beaucoup de favoritisme, c'est-à-dire, c'était assez conforme à sa phrase clé, faire vivre le Portugal habituellement, les petites choses du quotidien. Les petites choses du quotidien, c'est un emploi qu'on va permettre à quelqu'un d'occuper plus facilement, c'est un logement, c'est des petits avantages divers que lui-même, sinon directement, mais quelquefois on s'adresse à lui et il dit, on voit dans les archives, dans la correspondance, souvent il demande au service, à son cabinet, ses secrétaires, de suivre ce dossier, de s'en occuper. Donc ça, c'est, on va dire, un système d'entre-soi, de petites aides au quotidien, et puis un système beaucoup plus structuré qui fait que dans les grandes entreprises, la porosité avec la haute fonction publique, avec des responsables politiques, fait que c'est un système où la corruption a non seulement droit de cité existe, et que lui, c'est en gros cacher cette réalité que je ne saurais voir, parce que ça ne correspond pas complètement à sa philosophie. Mais il la laisse fonctionner d'une certaine manière quand il ne l'encourage pas à certains moments parce que ça favorise, ça lui permet de conforter telle ou telle chose, tel ou tel point et d'assurer aussi, c'est un des leviers qui lui permet aussi de durer.
Et nous allons pour le moment, Yves Léonard, marquer une courte pause.
À tous ceux qui en ont marre qu'on leur parle de pouvoir d'achat. C'est vrai, il y a mieux comme pouvoir, comme être invisible. Vous me voyez là ? Eh ben non, vous me voyez pas, je suis dans la radio. Parce que le pouvoir d'achat, c'est quand même bien. En avril, Intermarché s'engage et vous propose le produit le moins cher de France. Les 4 tranches de blanc de poulet doré au four Monique Ranou sont à seulement 1,42€. Et c'est aussi au drive et en livraison. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 28 avril, origine France, 160 grammes, soit 8,88€ le kilo, sur la base d'un relevé en date du 22 avril. Voir méthodologie sur intermarché.com. Pour votre santé, évitez de grignoter.
Tout savoir sur le reconditionnement des voitures d'occasion avec Autosphère. Vous souhaitez une voiture au prix de l'occasion, mais avec une fiabilité irréprochable ? Rendez-vous dans un instant.
Chez Netto, on gagne tous à payer moins cher. Et pour notre anniversaire ? Du 2 au 29 avril, on va vous gâter.
Ah oui ? Pourquoi ? C'est aussi mon anniversaire ?
Et oui ! Chaque jour, foncez à notre borne de jeux en magasin pour tenter de gagner des cartes cadeaux jusqu'à 50€. Et en plus, avec ma carte Netto, tentez de gagner un séjour en famille.
Ne m'en dites pas plus, je fonce chez Netto.
Netto, on gagne tous à payer moins cher. jeu avec obligation d'achat dès 25 euros. Règlement sur netto.fr.
Bière Pélican présente. Nous sommes actuellement en présence d'un remarquable spécimen de bière Pélican. Observez sa couleur dorée. Pas de doute, c'est bien une bière blonde Pélican. Pour révéler son goût généreux, la bière Pélican amorce son rituel de service. Un retournement de sa bouteille qui permet de remuer les levures et donner tout son caractère à la bière Pélican non filtrée. Pélican, bière du Nord non filtrée à 7,5 degrés. Pélican, retournez, savourez. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool.
Une urgence sur votre pare-brise ? Appelez Carglass au 3044.
3044.
Avec le 3044, vous êtes sûr de parler à un vrai conseiller Carglass et l'appel est gratuit. N'oubliez pas, une urgence sur votre pare-brise ? Appelez Carglass au 3044.
3044.
Et l'appel est gratuit.
Carglass répare, Carglass remplace.
Mano Mano. C'est le retour des Mano Mano Days, des maxi promos pour vous équiper, comme sur le nettoyeur haute pression Karcher K5 à 199 euros.
Bricolage, maison, jardin, manomano.fr, vous pouvez le faire.
Mano Mano.
C'est aussi des Pro Days sur le site et l'appli Mano Mano Pro. Mano Mano. Offre valable du 16 au 29 avril, voire conditions sur manomano.fr.
Chez Poltrone Sofa, le confort est surprenant. Découvrez sa vaste et laissez-vous étonner par ses dossiers réglables en un seul geste.
Jusqu'à samedi, il est remisé de 40%. Il ne coûte que 1536 euros.
Venez vous étonner en magasin. Poltrone Sofa, solo divan et de qualité.
Et voilà.
Uniquement des canapés de qualité, vérifiez conditions en magasin.
Visio Confucius, tu vois, toi qui travailles à ton compte, la mutuelle de demain te permettra d'être indemnisé si t'es arrêté.
Ok, ben ta mutuelle de demain m'aurait bien servi aujourd'hui en fait, parce que là, mes clients, ils comprennent rien à ce que je dis.
Être obligé de travailler quand on est arrêté, c'est du passé. Avec Aesio Mutuelle, les professionnels bénéficient de garanties santé ou prévoyance adaptées à leur statut, comme l'indemnisation perte de revenus en cas d'arrêt de travail. Aesio Mutuelle, c'est ça la mutuelle d'aujourd'hui. Informations et conditions en agence ou sur aesio.fr.
Moi, ça me rend joyeuse. La dernière fois, je suis revenue au bureau après un don de sang et il y a un collègue qui m'a dit « Mais t'es tout sourire, Sarah, aujourd'hui ?» C'est ça. À chaque fois que je donne, en plus d'être fière de moi, je me sens vraiment bien. On a tous une raison de donner son sang ou son plasma. Rendez-vous sur le site de l'établissement français du sang.
Yves Léonard, nous avons la chance de passer avec vous 2 heures aujourd'hui. Nous allons donc, pour le moment, laisser le sujet Salazar quelques instants, mais l'abandonne-t-on, véritablement, pour parler un peu plus de l'événement qui fête cette semaine son 50e anniversaire, ce jour initial qu'est la révolution des œillets. À la mort de Salazar en 1970, Marcelo Caetano prend le pouvoir et il hérite d'un Portugal endémiquement pauvre, où les conditions de vie sont misérables, les salaires sont parmi les plus bas d'Europe, où il y a une absence nette des libertés publiques, une grande faiblesse de la protection sociale, où la colère commence à gronder, notamment dans les centres urbains, où une forme de corruption, on en parlait, mine le pouvoir. En somme, il hérite d'une société aliénante, en crise, patriarcale, rongée par la guerre coloniale et l'émigration. Tout cela n'était-ce pas déjà la fin annoncée du régime ? Pourquoi Caetano s'est obstiné à prolonger la dynamique salazariste ?
Et pour plusieurs raisons. D'abord parce que Caetano, c'est un homme du sérail, un homme du régime salazariste et qui, pour l'essentiel, partage un certain nombre d'idées qui sont ancrées dans l'ADN, on va dire, de l'Estado Novo. Après, ça doit aussi, non pas par ordre de grandeur, enfin de hiérarchisation hein, des explications que je donne, elles sont sur un pied d'égalité, ou du moins elles se télescopent les unes les autres, mais la deuxième chose, c'est aussi la personnalité de Caetano, qui n'est pas Salazar. On a dit, à un moment, au début, il a fait naître un espoir, un Salazar qui sourit un peu plus souriant que son prédécesseur, mais c'est un homme qui a une personnalité différente. C'est-à-dire que Salazar, pour l'essentiel, lorsqu'il avait, on l'a souvent dit, une idée en tête, il était extrêmement obstiné, très têtu, il ne variait pas. Il pouvait prendre des chemins contourner pour, mais ne fixait le cap, l'objectif. Caetano est un peu différent parce que de son propre parcours, de ses conditions aussi d'arriver au pouvoir. Salazar n'a pas vraiment voulu de successeur, et encore moins désigné un dauphin ou un successeur, et pas Caetano. Caetano, d'ailleurs, il le racontera plus tard dans ses mémoires de Salazar, avait une relation très complexe. Il y a beaucoup d'amertume, même, parce que Salazar l'a souvent considéré avec un peu de distance. Ça a été le cas en 1958, après l'affaire Delgado. Il a été remercié, il était ministre de la présidence, c'est-à-dire une sorte de numéro 2 du gouvernement. Donc, il a été mis sur la touche, en quelque sorte. Il est devenu ensuite recteur de l'Université de Lisbonne et donc repris un peu cette carrière académique qui était sa marque de fabrique. Mais il est arrivé en 1968, quand Salazar est victime de cet AVC et incapable de reprendre. La question qui se pose, c'est qui ? Mais qui ? Il y a plusieurs possibilités. Et finalement, l'amiral Tombe va se résoudre, non pas en se pinçant le nez, mais sans passion et sans dynamisme particulier, sans joie particulière, à prendre la candidature de Caetano, qui offre des gages suffisants, qui est un professeur d'université, c'est une dictature cathédratique, comme on le dit, mais qui va se révéler incapable, finalement, d'incarner l'espoir qu'a fait naître son arrivée, c'est-à-dire, en 1969, le printemps marcelliste, hein, c'est-à-dire cette idée que le régime pourrait s'infléchir de l'intérieur. Bref, la lecture qu'on pourrait faire, qu'il faut institutionnaliser l'État de Novo en le libéralisant, en l'ouvrant à minima. Finalement, cette lecture va se révéler vaine, hein, puisque l'aile libérale, ça va être une duperie, et on voit bien que le durcissement se remet en place. Donc, et pourquoi il durcit ? Parce que, y compris sur la question coloniale, il est assez partagé. C'est un homme qui a promu... Il a essayé de promouvoir au début des années 1960, qui était un peu sur la ligne qu'on avait vue lors du coup d'État, la brigade du général Boutelier-Monich en avril 61, qui était déjà une inflexion, c'est-à-dire l'idée qu'il fallait un peu ouvrir plus d'autonomie, voire un système à la Commonwealth, enfin bref, quelque chose qui ne serait pas le maintien à l'identique. Et Caetano a été sensible à cette petite musique. Et puis il a fait ses voyages aux colonies en Outre-mer en 1969, où là il a été au contact des populations qui lui ont tout dit « mais on est ici chez nous, c'est ici qu'on doit vivre ». Et il a entendu leur discours, et l'une de ses dernières prises de position, les fameuses conversations en famille, en mars 1974, c'est dire « mais ça serait trahir que de renoncer à cela et de trahir ces gens, ces Portugais. Oui, »
ces Portugais de l'Outre-mer.
Voilà, de l'Outre-mer, qui sont des vrais Portugais authentiques, qui s'inscrivent dans une histoire longue, etc. Donc c'est un homme assez partagé. Et puis il a la pression aussi des ultras du régime, parce que les ultras du régime autour de l'amiral Tombe, c'est aussi, je parlais tout à l'heure de l'institutionnalisation de l'État nouveau, eux, ils ne voient pas tellement l'idée intéressante de moderniser une dictature. Ce qu'ils veulent, c'est maintenir, faire du salazarisme sans Salazar, en se disant que sans Salazar, ça va continuer de fonctionner. Sauf que c'est une illusion, et une illusion notamment sur des questions économiques et sociales, et surtout sur la question coloniale, qui est véritablement, comme on l'a dit, le nœud gordien, le point central de tout ça, sur lequel le régime va se casser les dents et la figure au final, parce que Caetano n'a pas su, n'a pas pu. Et la fenêtre de tir, comme on dit, elle était courte, elle était en 1969. Mais en 1969, il arrive, et puis il a toujours l'ombre portée de Salazar, parce que Salazar ne meurt que quelques mois plus tard. Donc c'est assez un théâtre d'ombre, c'est assez étrange cette situation. Et lorsqu'il essaye de reprendre la main, ou véritablement d'imposer les choses, il a déjà laissé passer ce moment. Après, ajouter à cela le fait que, à titre personnel, le décès, les problèmes de santé de son épouse, etc., tout ça vont beaucoup le fragiliser, l'affecter, et montrer à quel point il n'est pas en capacité, finalement, d'imprimer sa marque et de dire, notamment sur la question coloniale, avec ce qui se passe en Guinée, et Spinola lui a donné pourtant suffisamment de signaux d'alerte, eh bien... on va engager un processus et qui va nous conduire, et alors que c'est l'autoproclamation de la Guinée en septembre 1973, et là, on sent que la situation est déjà très compromise, et lui a laissé passer des étapes essentielles, n'a pas accédé aux propositions de non pas de paix séparée, mais enfin d'évolution négociée qu'avait envisagé Spinola avec Sédar Senghor au Sénégal, etc., comme Monsieur Bons Offices, en quelque sorte. Tout ça va évidemment porter préjudice et faire que Caetano ne s'est pas révélé être ni le De Gaulle portugais, ni je ne sais quoi. Il n'a pas réussi à faire changer le régime. Il a cherché à le maintenir, une évolution dans la continuité, comme il le dira de manière prophétique. Et il y aura une évolution, mais avec révolution.
Absolument. Et d'ailleurs, quand est-ce que commence 1974 ? Je veux dire par là, qu'est-ce qui déclenche le 25 avril ? 1961 avec l'année horrible de Salazar, 1958 avec l'élection présidentielle et, on en parlait, la candidature de Humberto Delgado, ou bien février 1974 avec la publication du pamphlet d'Antonio de Spínola, Portugal e o Futuro. On a là trois dates possibles, trois marqueurs, trois entrées qui peuvent expliquer le 25 avril 1974.
Oui, d'un point de vue politique, effectivement, ce sont trois dates importantes, enfin trois séquences importantes. Après, il y a toute l'onde de choc, enfin tout le soubassement, dire la société portugaise qui est en train d'évoluer, de changer, pour un certain nombre de raisons. Parce que le Portugal, dans les années 60, c'est aussi un pays qui se modernise. Disons qu'il y a une croissance qui est assez forte, il y a des investissements qui sont réalisés notamment par des groupes étrangers, qui ne profitent pas évidemment à la grande partie de la population, mais ça se met en place. Il y a un colonialisme tardif aussi qui crée des déséquilibres et qui ne convainc pas pleinement les milieux d'affaires que l'avenir du Portugal est bien outre-mer, comme le martèle le régime. L'Europe commence à pointer son nez, l'Association européenne de libre-échange, le traité commercial de 1972 signé par Caetano, tout ça, ce sont des signaux forts que les priorités sont en train de se réorienter. Et puis cette société, eh bien, c'est une société qui commence à s'urbaniser, où la classe moyenne, une petite classe moyenne, commence à se mettre en place, où les vents de l'histoire, évidemment, saisissent malgré la censure, malgré la chape de plomb qui pèse, la police politique, les gens et notamment une certaine société, cette classe moyenne, les milieux catholiques progressistes. Bref, tout ça, ils rentrent en résonance les uns les autres pour se dire que on peut pas continuer sur cette voie et qu'il va falloir certainement changer quelque chose. Et puis l'émigration massive. Quand vous avez près d'un million de Portugais qui quittent le pays en disant « notre avenir n'est pas là, n'est pas outre-mer », comme le dit le régime, il n'est pas là. Nous partons dans des conditions souvent très difficiles, clandestinité, le salto, etc. Eh bien, évidemment, sociologiquement, ça change la donne. Et puis, ces gens qui sont à l'étranger, qui travaillent dans des conditions très dures, souvent dans des bidonvilles nombreux, eh bien, aussi, il y a une acculturation. Ils voient ce qui se passe. Ils savent qu'il y a une protection sociale qui est un peu meilleure dans les pays d'accueil, qu'il y a un droit de grève, que des congés payés, on peut en obtenir, que, bref, tout ça, quand ils rentrent, enfin, du moins, quand ils échangent avec leur famille au Portugal, eh bien, ça compte aussi. On se dit que ce système salazariste, où l'état social est réduit à sa plus simple expression, où les injustices sont criantes, où la pauvreté est effroyable, où le taux d'enseignement et d'enseignement supérieur reste à des niveaux quand même très très faibles, eh bien, il y a certainement quelque chose. Donc c'est tout ça qui se met un petit peu en résonance avec comme détonateur principal, ça a été souvent dit, mais et le livre de Spinola, évidemment, en est l'illustration, c'est évidemment le détonateur colonial qui va mettre le feu aux poudres.
Oui, finalement, c'est grâce au soulèvement dans les colonies africaines que la métropole finit par tomber elle-même. C'est parce qu'il y a eu 1961, et donc le début de ces guerres coloniales au Mozambique, en Angola et en Guinée-Bissau, que le pouvoir commence à fléchir.
Oui, oui, ça a été effectivement une des origines, c'est-à-dire que ça a plusieurs répercussions. D'abord, ça fragilise le discours dominant du régime. La perte de Goa, symboliquement, c'est quand même quelque chose de très fort.
En Inde,
oui, ça va provoquer à la fois un sursaut, mais surtout un traumatisme profond chez les hiérarques du régime, à commencer par Salazar. Donc, on voit bien que l'essentiel va se jouer là. Pour autant, ça déséquilibre les finances de l'État. Hein. Le système salazariste, c'était la promotion alors de la nation, tout pour la nation, mais avec un État structuré, un État relativement fort, et notamment sur le plan des finances publiques, avec un stock d'or important, un équilibre, une monnaie respectée, les scudos, et puis des finances publiques équilibrées. Avec tout ça, avec tout ce qui se passe dans les années 1960, et notamment l'effort de guerre qui est considérable, hein, quand on voit le nombre de conscrits qui traversent sur place, les investissements qu'il faut réaliser, les coûts que ça représente, c'est plus d'un tiers, 40% du budget qui se volatilise, qui part dans ces guerres coloniales, au détriment de tout le reste. Donc, on voit bien qu'effectivement, c'est quelque chose qui va, surtout rétrospectivement, à quel point c'est quelque chose qui ne peut que fragiliser le régime. Mais pour autant, celui-ci continue à fonctionner, à avoir une visibilité sur la scène internationale, le soutien même, tant revendiqué au sein de l'Alliance Atlantique et des États-Unis en tête. Bref, c'est ce système-là qui, pour être vermoulu, pour être un peu à bout de souffle, n'en est pour autant résistant, d'une certaine manière, avec les apparences d'une forme de solidité à la veille de la révolution des œillets.
Yves Léonard, tous les jours à 12h30, ici dans l'Alpha 10 13, nous découvrons le témoignage d'un homme ou d'une femme qui, il y a 50 ans, le 25 avril 1974, a vécu la révolution des œillets. Nous allons donc marquer une courte pause maintenant d'une dizaine de minutes pour écouter cette histoire d'avril, la lecture d'un poème, une musique, et on revient juste après, aujourd'hui, l'histoire d'avril d'une de nos auditrices.
Histoire d'avril.
Pauline Santiago a 88 ans. Française, elle est l'épouse d'un homme portugais et a vécu intimement le 25 avril 1974. Son mari, exilé politique en France, suivait de très près l'actualité portugaise. Et quelques jours seulement après la Révolution, elle et lui ont embarqué dans le premier avion pour le Portugal. Ce couple, ami du couple Afonso, ou plus précisément Zeca Afonso, le chanteur, et sa femme Zélia, est un témoin privilégié du processus révolutionnaire portugais. Cette introduction sera volontairement succincte puisque je laisse la parole à Pauline qui, très consciencieusement, a écrit le texte que vous allez entendre. Pour tout vous dire, Pauline n'était pas prévue dans ces histoires d'avril. Un après-midi, à la radio, le téléphone a sonné. Et c'était Pauline. Elle avait entendu parler des histoires d'avril ici, sur Radio Alpha, et a souhaité témoigner elle aussi. Après plusieurs échanges et quelques vérifications, voilà donc l'histoire d'avril de notre auditrice, Pauline Santiago.
Je m'appelle Pauline dos Santos Simões Santiago. J'ai 88 ans. J'ai été mariée 46 ans avec João Paulo dos Santos Simões Santiago, un exilé portugais. Donc, tout ce qui se passait là-bas, on le savait. Enfin, moi-même, j'ai été au Portugal plusieurs fois, voir des gens dans la clandestinité, etc. J'ai été arrêtée aussi là-bas, etc., etc. J'ai connu, pour avoir aidé des jeunes Portugais à avoir leurs papiers, les bidonvilles de Champigny et de Nanterre. Quand le 25 avril arrive, mon mari s'écria « J'acheta a te un film ». Donc, dès ce moment, avec un ami portugais, exilé lui aussi, nous prîmes des billets pour être à Lisbonne le 1er mai, invité à la tribune sur le stade. Dans l'avion qui nous emporta vers le Portugal, d'autres exilés qui rentraient au pays. L'arrivée à l'aéroport de Lisbonne fut particulièrement émouvante. Les soldats, juchés sur les chars, avec leurs fusils, d'où sortaient des œillets rouges. Les femmes en noir et tout le monde nous accueillit joyeusement et dignement. Nous étions très émus. Ensuite, en route vers le stade, à travers les rues pleines de monde, les gens aux fenêtres étaient si joyeux. Tous ces moments, je ne les oublierai jamais. Je tiens aussi à parler de notre ami José Afonso, qui séjourna de nombreuses reprises chez nous, et en ce jour qui approche, j'écoute sans cesse cet hymne qui a été le point de départ pour la révolution, Grandola Vila Morena. C'était un ami de mon mari du Portugal encore, quand José était simplement professeur à Coimbra. Et après, il est devenu chanteur, etc. Et après, quand il venait à Paris donner des récitals ou en France, c'était mon mari qui lui servait de manager, entre guillemets. Et donc, nous étions très, très amis, logés chez moi. Et je suis toujours très amie de sa veuve, Zélia Afonso, qui réside au Portugal, à Setúbal. Je pense que de toute façon, ça sera jamais effacé. Qu'il y a eu un certain nombre de grands progrès au Portugal après la chute de Salazar. Les esprits se sont ouverts, les réunions ont pu avoir lieu, etc. Et que 50 ans après et à l'heure actuelle, vu que vous connaissez le résultat des élections, ça me rend assez triste. Voilà mon modeste témoignage qui est véridique et combien sincère.
Grandola Vila Morena.
Histoire d'avril.
Meu país liberto. Meu país liberto pela madrugada, na força do povo há muito sonhada. Meu país guardado no fundo da arca, coberto do tempo sem marca. Meu país cansado, de peito fendido, de rosto velado e até esquecido. Meu país mazela, herança da guerra nos filhos roubados, tirados à terra.
Meu país sem rumo, perdido na história de gente tristonha sem gosto à vitória. Meu país gerado e feito criança, é teu o caminho que trilhas na esperança. Meu país gigante, irás na aventura correr mil veredas e fazer figura. Meu país liberto, pela madrugada na força do povo há muito sonhada. Francino Machado, poema Meu País Liberto. Trova do Vento que Passa é une chanson de António Portugal et Manuel Alegre. Elle date de 1963 et on peut l'écouter dans l'album Fados de Coimbra, chanté par Adriano Correia de Oliveira. Une nuit où Manuel Alegre était accompagné de Adriano Correia de Oliveira, place de la République, à Coimbra, ce dernier a voulu exprimer sa révolte contre le régime salazariste en place en lisant les premiers vers de la chanson qui va suivre. Pergunto ao vento que passa, notícias do meu país. E o vento cala a desgraça, o vento nada me diz. O vento nada me diz. Je demande au vent qui passe des nouvelles de mon pays. Mais le vent ne raconte pas les malheurs. Le vent ne me dit rien. Le vent ne me dit rien. Très naturellement, quelque temps plus tard, ce poème est devenu une chanson. António Portugal a composé la mélodie et Adriano Correia de Oliveira l'a chanté pour la première fois en public à l'Université de médecine de Lisbonne. Nous allons maintenant écouter Trova do Vento que Passa de Adriano Correia de Oliveira.
Pergunto ao vento que passa notícias do meu país. E o vento cala a desgraça, o vento nada me diz. E o vento cala a desgraça, o vento nada me dit.
Et nous allons reprendre maintenant notre discussion avec l'historien Yves Léonard. Nous évoquions à l'instant les colonies africaines comme premier domino, le premier qui a fait tomber tous les dominos jusqu'au 25 avril 1974 et donc qui a entraîné la chute de l'État nouveau ou Estado Novo de Salazar et Marcelo Caetano. Pourquoi, Yves Léonard, la priorité de Salazar, pour revenir maintenant un petit peu à ce dictateur énigmatique, c'est le nom que vous donnez aussi à sa biographie aux éditions Perrin, pourquoi Salazar, sa priorité était de préserver intact l'empire colonial, l'ultramar en portugais?
Ah ben parce que c'est la clé de tout à ses yeux, c'est-à-dire que c'est un homme qui a fait sienne la cause de l'Empire. C'est pas un homme de la mer, comme je l'ai souvent rappelé, il est un homme de l'intérieur des terres, des Beiras, c'est un nationalisme tellurique de la terre et des morts. Mais il a compris que le récit national qu'il veut écrire et qu'il veut magnifier à travers les Estados Novos, c'est ce qui consacre la portugalité, la grandeur du Portugal. Et la grandeur du Portugal, à ses yeux, passe par le maintien, la préservation de ces traces du passé glorieux, supposé glorieux, de l'Inde et de l'Afrique, etc., et qu'il faut impérativement les garder. Parce que, pour lui, c'est la clé de tout. Le Portugal n'est pas un petit pays, disait la propagande dans les années 1930, et après la fin de la Seconde Guerre mondiale, eh bien, la priorité de sa politique étrangère, ça reste de préserver, tout doit être fait pour maintenir l'outre-mer, puisqu'on va rebaptiser, il y a une opération cosmétique, qu'au début des années 1950, mais l'idée reste la même. Il s'agit d'adapter juridiquement, on passe de province d'outre-mer, on va instrumentaliser le lusotropicalisme de Gilberto Freyre, on va le mobiliser, mais l'idée c'est toujours de rester sur place, de ne rien changer. Et donc, au début des années 60, alors que tout le monde, ou presque, en Europe a décolonisé, il ne reste plus comme survivance en Afrique australe, justement, des permanences locales, on va dire, notamment sur les questions de l'apartheid, de populations blanches, la Rhodésie, l'Afrique du Sud, mais tout le reste en Europe, la France, l'Angleterre, etc., ont décolonisé, sauf le Portugal. Et lui, Salazar, évidemment, considère que c'est non négociable, parce que, dit-il, c'est son testament, en quelque sorte, pas écrit, hein, bien évidemment, mais c'est l'idée. C'est qu'il va laisser en legs, d'ailleurs, on parlait de Caetano tout à l'heure, qui va se retrouver coincé avec les ultras du régime, avec ce legs salazariste qui consiste à dire, si le Portugal perd ses colonies de l'outre-mer, eh bien le Portugal disparaîtra. Et ça, cette croyance, évidemment, il va la diffuser, la marteler tout au long des années 1960, sans qu'il y ait une adhésion populaire très grande, hein, au fil des années 60, avec la guerre et tout. On prend en mesure la conscience que ce récit national, finalement, ça part de fiction. Le Portugal du Minuatimor, le Portugal pluricontinental, pour beaucoup de jeunes recrues, c'est aller se faire trouer la peau dans des conditions épouvantables au milieu de nulle part, dans le cul de Judas, dira Antonio Lobo Antunes dans son roman. Bref, c'est quelque chose dont il faut se défier. Ce n'est pas la légende, le récit, le narratif qu'on a voulu diffuser jusque-là. Et donc, le problème de Salazar, tant qu'il est en vie politiquement, c'est que ce n'est pas négociable. Et ensuite, eh bien, les hiérarques du régime reprennent à leur compte cette fiction assez largement, mais cette croyance qu'ils partagent en leur sein, d'un Portugal pluricontinental. Et donc, avec derrière, évidemment, des résonances que Salazar avait déjà beaucoup utilisées, de tonalités de guerre froide, c'est-à-dire la menace communiste qui va déferler sur la péninsule ibérique et sur les provinces d'outre-mer qui seront envahies par les soviétiques, etc. Donc on est dans cette croyance, et ça fait partie des choses, de ces vérités, entre guillemets, non négociables, intangibles, que Salazar avait diffusées depuis les années 30. C'est au cœur du dispositif.
Salazar, un dictateur luso-lusitanien, il aura très peu quitté le Portugal, il n'aimait pas prendre l'avion, il est allé une fois en France et seulement quelques fois en Espagne.
Oui, c'est un voyageur immobile. C'est un navigateur qui n'a pas navigué, comme son glorieux ancêtre,
l'enfant Henri.
L'enfant Henri,
qui est
la figure tutélaire. Là, on voit bien que Salazar, c'est en gros, faites ce que je dis, pas ce que je fais, quoi. C'est-à-dire qu'il va inciter les Portugais à aller, le colonialisme tardif, à s'installer en Angola-Mozambique, lui surtout, ne pas bouger. C'est dans sa nature, c'est dans sa perception, cette espèce de repli autarcique, réflexe obsidional assez prononcé qu'il a en lui. Et puis aussi, quelquefois, de la méfiance. Hein, il vaut mieux être chez soi, à l'abri, avec la police politique qui veille, qu'à l'extérieur. Les rares fois où il se déplace, à part sa jeunesse, entre guillemets, avant d'accéder au pouvoir. Hein, il va aller, effectivement, en 1924, quelques jours en Espagne, il va visiter le Madrid, le Salamanque, il va aller en 1927 en France, en Belgique. Quelques jours, hein, c'est des déplacements, celui de 1927, guère plus de 15 jours, hein, pour faire le voyage de Lisbonne jusqu'à Liège en passant par Paris. Donc c'est quelque chose d'assez... Il n'a pas la connaissance de tout ça, mais comme il le dit souvent, et ça vaut pour l'outre-mer, il ne mettra jamais les pieds outre-mer. Mmh. Le seul endroit où il est allé, c'est à Madère pour faire des conférences là aussi dans les années 20. Il dira toujours, mais est-ce qu'un général a besoin de connaître particulièrement le terrain pour mener la bataille? Donc il ne connaît pas le terrain, mais il, parce qu'il lit beaucoup de choses, il a ses récits.
Il a une connaissance livresque.
Il a une connaissance livresque, et donc il considère que voilà, c'est là-bas que l'avenir se joue, sans lui-même se déplacer. Et puis avec Franco, ben, il y a cette proximité à la fois idéologique, les affinités électives, et aussi ce vieux problème de libérisme, hein, c'est-à-dire qu'il y a un voisin d'Espagne ne vient ni bon vent ni bon mariage, dit-on, mais une menace permanente depuis la fondation du royaume, hein, autant ancestraux vénérés par Salazar, Alfonso Henry, etc., au XIIe siècle. Et bien, avec Franco, il y a cette méfiance très grande, parce qu'en Espagne, il y a les républicains qui, avec leur velléité autonomie et de créer une espèce d'ensemble fédéral ibérique. Et Franco, qui avait envisagé, qui avait même écrit une réflexion sur comment envahir le Portugal. Bon, voilà, il faut faire de la péninsule ibérique un glacis, sécuriser le truc, et puis effectivement, il y a des affinités idéologiques, et pour ça, ben, de temps en temps, quand même se rencontrer. 1942 à Séville en février, quelques heures, un peu plus par la suite, il va l'accueillir Franco à Lisbonne en 49, il y en aura d'autres en 53, en 57. C'est toujours à proximité, Séville.
Et puis jamais très loin de la frontière.
Ouais. Jamais très loin de la frontière. Et quand il franchit la frontière, il y a des scènes tout à fait étonnantes où une fois, je ne sais plus si c'était en 57 ou en 63, et qu'il passe la frontière, mais il a oublié ses papiers d'identité, son passeport. Et donc tout son staff le rassure en disant mais c'est pas bien grave. Mais lui, il est perturbé parce que il va sortir de la frontière sans ses papiers, quoi, en quelque sorte. Il est le président du conseil et personne oserait au garde-frontière lui dire quoi que ce soit. Voilà, c'est cette perception, ce repli très porté sur cette terre qui l'accompagne depuis sa naissance et jusqu'à sa mort. Quoi.
On va revenir un petit peu au 25 avril 1974, un jour fondamental de l'histoire du Portugal, mais aussi de l'histoire européenne. Cette révolution a ouvert la voie à une troisième vague de démocratisation, la fameuse « third wave » conceptualisée par le politiste Samuel Huntington.
Oui, hein, c'est un événement à double dimension, si vous voulez. C'est-à-dire que ça a une portée évidemment nationale, portugaise, considérable, parce qu'elle sépare un avant d'un après. C'est peut-être le seul situation cas de transition par rupture. C'est-à-dire que dans la fameuse troisième vague qu'on vient d'évoquer, eh bien, ça fait singularité. Le 25 avril, la situation le 26 avril au matin n'est pas la même que le 24 avril au soir. Alors que dans les autres types de transitions négociées, pactées, c'est un processus lent avec les élites qui s'entendent les unes les autres pour finalement trouver un point de sortie.
Oui, c'est ce qui fera dire à l'historien Kenneth Maxwell, c'est une démocratie plus conquise que négociée.
Exactement. Et ça, c'est quelque chose de très singulier, de très particulier. Après, vous l'avez évoqué, il y a cette dimension, il y a donc la dimension portugaise et la dimension nationale, internationale, qui est considérable. C'est-à-dire que c'est un événement qui, à chaud, va susciter un intérêt considérable en Europe, la France en particulier, qui va voir beaucoup de ses intellectuels et hommes politiques affluer à Lisbonne dans un parcours militant et presque un voyage initiatique de militantisme avec ces terrains d'expérimentation, le Portugal comme laboratoire politique de l'Europe. Et puis, sur la durée, effectivement, une dimension internationale très forte avec, en toile de fond, cette idée d'une troisième vague, mais troisième vague très singulière parce que Huntington, c'était pour dire, mais ça a commencé le jeudi 25 avril 1974 à Lisbonne, mais pour mieux dire, c'est pas la voie à suivre. Ce qu'il faut suivre, quelque part, c'est plutôt le modèle de la transitologie, c'est plutôt le modèle espagnol, en quelque sorte. Mais c'est vrai que cette révolution, elle va impacter beaucoup, notamment politiquement, toutes les dynamiques, toutes les réflexions sur l'union de la gauche, l'eurocommunisme en Italie. Bref, on voit que cette dimension est très très présente et va permettre, parce que la dimension nationale est importante pour comprendre tout le processus démocratique et comment tout ça s'est mis en place au Portugal, mais sur le plan international, l'ombre portée de la révolution fait que 50 ans après, ça reste une référence parce que ce fut d'une certaine manière la dernière révolution classique visant à renverser l'ordre des choses, l'ordre capitaliste, on disait, à une période. C'est la dernière révolution de ce type. Il n'y en a pas eu d'autres avec une telle ampleur. Les autres se sont faits selon des modalités dont on a vu à chaud et par la suite à quel point elle était différente du modèle, du contre-modèle ou du contre-exemple portugais.
Et il y a eu une confusion post 25 avril. Effectivement, ce jour-là, tout s'est très bien passé, mais cette confusion n'est-elle pas due justement au caractère même de la révolution des œillets, c'est-à-dire un moment qui a été pensé et porté par de jeunes capitaines, par des officiers subalternes, sans relation avec des organisations politiques, qui avaient un programme politique qui se résumait en trois lettres, pour le moins minimaliste, les 3D, démocratiser, décoloniser et développer.
Oui, alors c'est effectivement une singularité supplémentaire, même initiale, si l'on peut dire, du 25 avril, c'est qu'elle a été orchestrée par des officiers intermédiaires, c'est-à-dire une partie pas très importante, pas très numériquement importante de l'armée de terre principalement et de la cavalerie, pour renverser un régime. C'est très rare que des militaires se structurent pour faire un coup d'État démocratique. Il y a beaucoup de militaires qui s'organisent pour renverser un régime.
Il y avait eu le Chili quelques mois auparavant.
Il y avait eu le Chili avec Pinochet quelques mois auparavant, en septembre 1973. Là, ce sont des jeunes officiers qui disent on ne peut plus continuer la guerre de cette manière. Il faut trouver une solution, le régime n'y est pas arrivé, ils ont eu le temps, ils n'y sont pas parvenus, donc opération fin de régime, enfin virage historique, selon le nom consacré. Et donc on fait un coup d'État dont on a préparé un petit peu les choses sérieusement, mais sur le lien populaire avec la population, même si tout le monde aujourd'hui tend à dire que tout le monde était au courant, tout le monde savait tout sur tout, et que voilà, c'était pratiquement une programmation implacable. Bon, moi je suis un peu plus réservé, c'était quand même un moment dans le secret, non pas de l'isoloir, mais du poste de commandement, il fallait un petit peu concevoir tout ça.
De ponting.
Et puis dans les semaines qui ont précédé, il fallait identifier les cibles, etc. Bien sûr, il y avait des indiscrétions, bien sûr, il y avait des fuites. Bien sûr, le programme du mouvement des forces armées était en partie connu, ou du moins, il y en avait des fuites qui étaient orchestrées, ou même, ça a été montré la semaine dernière où j'étais à Lisbonne, l'ambassade de France avait eu vent du programme du MFA, les diplomates en poste à Lisbonne, mais pour autant, on ne savait pas ni la date, ni les modes opératoires. Et de toute évidence, une partie du régime ne s'attendait pas, et les ambassades aussi, à ce que ce soit aussi soudain et que ça vienne aussi vite après l'échec du soulèvement de Caldas de Reina le 16 mars. Donc c'est tout ça qu'il faut mettre un petit peu en résonance, parce que ces militaires ont réussi à orchestrer, à préparer quelque chose assez minutieusement, à faire en sorte que les planètes s'alignent, comme on dit, et que l'aléa, la part de l'aléa, le part du hasard, soit réduite, parce que ça aurait pu tourner très différemment. C'est ça qu'il faut jamais oublier sur la journée du 25 avril. C'est un moment de liesse populaire extraordinaire, d'appui assez spontané et rapide du peuple au mouvement insurrectionnel des jeunes militaires. Mais les choses auraient pu tourner différemment, et pas simplement parce que tout était construit d'avance, que le régime était à bout de souffle, que tout le monde était de mèche, que la police politique s'en fichait, etc., etc. Ça aurait pu très mal tourner. D'ailleurs, ils s'y préparaient, les capitaines d'avril. Ça a été pacifique pour l'essentiel, à part Lapide qui a tiré dans la foule en fin d'après-midi, mais ça aurait pu tourner différemment. Parce que, ils sentaient que c'était, ils engageaient leur vie, ces capitaines. C'est-à-dire qu'ils ne voulaient pas retourner au front, ils ne voulaient pas poursuivre cette aventure. Et le seul moyen, c'était parce qu'ils avaient des idées progressistes, l'illustration de cette évolution sociétale du Portugal des années 1960, ces jeunes capitaines issus de milieux souvent modestes. Bref, tout ça participait de l'idée qu'il fallait enfin faire quelque chose. Ce qui a surpris, c'est le déclenchement, la soudaineté, et puis cette alliance, ce soutien populaire immédiat, fort, qui a été décisive dans la journée du 25 avril, et pas seulement dans les jours qui ont suivi, mais la journée du 25 avril, on ne peut pas la comprendre si on n'a pas en tête, en champ de vision, eh bien, ce peuple qui, spontanément, très vite, dès le petit matin, même si on lui demande de rester chez lui, qui va prendre la mesure de ce qui est en train de se passer et apporter un soutien décisif, et puis qui donne cette tonalité évidemment très prétanière, extraordinaire, de dynamisme et de rêve que va incarner le 25 avril.
Yves Léonard, je cite ici votre plus récent ouvrage, il s'appelle Salazar, le dictateur énigmatique, a été publié aux éditions Perrin, vous pouvez l'acheter dans toutes les bonnes librairies. Ce livre, bien comme tous les autres que vous avez pu publier aux éditions Chandaigne ou encore Talendier, je cite Sous les œillets, la révolution Chandaigne, Histoire de la nation portugaise chez Talendier, Salazarisme et fascisme, Histoire du Portugal ou encore Histoire du Portugal contemporain, c'est trois derniers bouquins aux éditions Chandaigne. Merci beaucoup Yves Léonard pour ces deux heures passées en notre compagnie et pour toutes ces explications sur ce dictateur énigmatique qu'était Antonio de Oliveira Salazar et sur cette grande journée qui dans deux jours fête ses 50 ans, le 25 avril 1974.
Merci beaucoup et puis abril sempre, comme on dit.
Petite annonce.
Société située en Seine-et-Marne, recherche pour le secteur Île-de-France, chauffeur aspiratrice, chauffeur poids lourd, super lourd, mécanicien poids lourd et pileur. Possibilité de logement. Contactez Monsieur Leb au 06 77 44 11 41. 06 77 44 11 41.
Oferece ou procura emprego, uma casa ou apartamento, em França ou em Portugal? Divulga sua mensagem nos anúncios da Rádio Alfa. Contacte-nos através do 01 45 10 98 70 ou pelo site radioalfa.net.
Tout savoir sur les élections européennes avec le gouvernement.
Les élections européennes auront lieu le 9 juin ainsi que le 8 juin dans certains bureaux de vote des Outre-mer ou des consulats de la zone atlantique. Il n'y a qu'un seul tour. Pour voter, vous devez être inscrit sur les listes électorales. Vous avez jusqu'au 3 mai inclus pour le faire en mairie et jusqu'au 1er mai pour le faire en ligne. Vous pouvez aussi donner procuration à un autre électeur. Plus d'infos sur elections.intérieur.gouv.fr.
Ceci est un message du gouvernement.
Le Théâtre de la Ville célèbre les 50 ans d'une démocratie dans l'espace européen. Une journée de fête et de musique portugaise pour célébrer le 50e anniversaire de la Révolution des œillets. Avec Maria Reis, une des artistes les plus convoitées de la scène musicale, interprète les chants d'intervention portugais des années 60 et 70. Africa Negra, un des groupes les plus anciens et mythiques avec ses mélodies et le mélange de rythmes puxa et rumba. La pianiste Joana Gama et la chorégraphe et chanteuse Tania Carvalho, des membres et étrangers. Angle, poèmes et chants traditionnels. Rendez-vous le 25 avril à 20h au Théâtre de la Ville à Paris. Retrouvez tout le programme sur théâtredelaville-paris.com.
J'en peux plus de cette météo. J'ai vraiment besoin d'évasion et de soleil. Une amie m'a conseillé une très bonne agence de voyage, MZ Voyage. Elle a fait un voyage en famille en all inclusive et vu les photos, c'était miaou. Wow, MZ Voyage. Je vais vraiment aller me renseigner chez eux. Ils ont des agences à Montgeron, Draveil, Villeneuve-Saint-Georges et Paris 11 ou sur www.mzvoyage.fr et Insta ou Facebook MZ Voyage.
Chez Netto, on gagne tous à payer moins cher. Même vous, Corentin.
Moi?
Oui, vous. Car du 23 au 29 avril, pendant l'anniv Netto, le paquet d'essuie-tout absorbant double épaisseur Netto est à seulement 2,53€ au lieu de 3,84€. De quoi essuyer toutes les bêtises de vos petits monstres.
2,53€ le paquet d'essuie-tout absorbant double épaisseur Netto. Les enfants, on est sauvés.
Netto, on gagne tous à payer moins cher. Netto.
Pack de 6 rouleaux, 34% de remise immédiate. Plus d'infos sur netto.fr.
C'est si bon.
Limousine.
À l'aubergine.
À la bénédictine.
À la poitevine.
À la girondine.
En mousseline.
Chez Micheline.
En mandarine.
Façon Justine.
En gélatine.
À la cantine.
En tartine.
En tagine.
En verrine.
So bling bling.
En smoking.
En jogging.
Chez la voisine.
De la grande cuisine.
Chez nous le bœuf. C'est si bon. Qu'il y en a pour toutes les bouches. Oui.
À tous ceux qui montrent une photo de leur chien ou de leur chat pour que vous disiez « Oh, il est mignon !» et pour qu'ils répondent « Il a 3 ans, là-bas c'était celui de mes voisins et... » Pardon Pascal, mais personne t'a demandé. On voulait juste être sympa. Intermarché rembourse 50% de vos achats sur le rayon alimentation chien et chat en 2 bons d'achat. Et chaque semaine, profitez d'un nouveau rayon 50% remboursé en bon d'achat.
Intermarché, tous unis contre la vie chère.
Jusqu'au 28 avril, des 15€ et jusqu'à 25€ d'achat, offre réservée aux porteurs de la carte de fidélité. Modalité sur intermarché.com.
Ce mardi, jackpot Euromillions de près de 130 millions d'euros. Et vous, quel millionnaire seriez-vous ? FDJ, montant à partager au rang 1, plafonné à 250 millions d'euros, voire règlement sur fdj.fr. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux, perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13, appel non surtaxé.
Ah, ce petit appartement, vous l'avez acheté, retapé, vous l'avez prêté à votre petit-neveu et puis vous pensiez le revendre, mais en fait, non. Vous l'avez loué à Madame Martin. Et à Matou aussi. Vos biens immobiliers ont plusieurs vies, mais nous, on ne peut pas le deviner. Alors pensez à nous dire qui occupe vos logements sur impots.gouv.fr.
Ceci est un message du gouvernement.
Radio Alpha.
Não há mais cama, nem mais beijos, nem nada que nos defina como um casal.
Nem mesmo o tempo e o teu silêncio vão apagar o que é imortal.
O café aqui em casa tem o mesmo cheiro e aos fins de semana a mesma música a tocar.
Será que ainda me olhas desse mesmo jeito? E no silêncio ainda chamas por mim.
Como te procurei, o que eu já chorei, pelos cantos do mundo teu nome chamei.
O que eu procurei, o que eu já chorei, pelos cantos do mundo teu nome chamei. O meu lençol
tem o teu cheiro. Fica difícil de acordar sem ti aqui. Será que acordas do mesmo jeito? Será que alguém te faz feliz como eu fiz?
O café aqui em casa tem o mesmo cheiro. E aos fins de semana a mesma música a tocar. Será que ainda me amas deste mesmo jeito? E no silêncio ainda chamas por mim.
Como eu te procurei, o que eu já chorei. Pelos cantos do mundo o teu nome chamei.
Como que procurei, o que eu já chorei. Pelos cantos do mundo o teu nome chamei. Diz-me onde tu estás, porque eu não sou capaz de viver mais assim. Seja